cas, c'est toujours une joie, dimanche après dimanche, de partager la parole de Dieu. Voilà ce qu'il y a de plus agréable, en tout cas. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais poursuivre dans la même dynamique que le premier culte de ce mois de septembre. En effet, le Seigneur nous permet d'entendre plusieurs messages sur la victoire. Sur la victoire que nous avons par Jésus-Christ au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Je vous disais que j'étais loin d'imaginer que c'était une série d'études, une série de prédications lorsque j'avais prêché le 3, mais c'est voilà, l'Esprit de Dieu qui m'a conduit dans ce sens. Et donc, on est le dernier dimanche du mois, nous allons terminer ce que nous avons commencé dimanche dernier. Je vous rappelle que le thème du message, c'est « Celui à celui qui vaincra ». C'est Jésus qui parle pour cette église dans le livre d'Apocalypse. Celui qui vaincra. Donc, dimanche passé, je rappelle que nous avons commencé de parler de ce que moi j'ai appelé des évidences qui caractérisent la victoire que nous avons en Jésus-Christ. À partir justement de l'expression « à celui qui vaincra ». La Bible parle de promesses. Je préfère parler plutôt d'évidence parce que évidence, c'est quelque chose qui est vraiment évident dans notre vie. Quand on parle de promesse, on a l'impression que c'est que pour le futur. Mais en réalité, les promesses aussi, c'est pour ici et maintenant. Voilà pourquoi j'ai préféré plutôt utiliser le mot évidence. Il ne s'agit pas simplement des promesses dans le futur, mais des réalités présentes que l'on trouve chez ceux qui sont vainqueurs. Il nous faut vaincre aujourd'hui. Il n'est pas question d'attendre un événement futur. Bien évidemment, dans un certain sens, il y aura un accomplissement littéral de ces promesses dans le futur, à un moment donné. Mais si nous ne les voyons pas s'accomplir dès maintenant, au moins dans une certaine mesure, alors nous ne sommes pas en train de vaincre. Les vainqueurs remportent la victoire aujourd'hui. Donc, si nous ne sommes pas en train de vaincre, bien-aimés, nous passons à côté de la réalité présente autant que des promesses futures. Alors la première victoire, c'est « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est la promesse que Dieu a faite à l'église d'Éphèse. Nous avons entendu dimanche dernier, Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Deuxième, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Promesse faite à l'église de Smyrne. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. C'est donc la troisième promesse qui a été faite à l'église de Pergame. Il s'agit là des trois premières évidences étudiées dimanche dernier. Donc aujourd'hui, nous allons parler plutôt des quatre dernières évidences. En commençant par l'église de Thyatire. À celui qui vaincra, dit Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 28, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, dit Jésus, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. La forme de ce passage, frères et sœurs, ressemble au psaume 2. Le Père a dit que le Fils dominera les nations. Voilà ce que le Père a dit. Et de son côté, maintenant, le Fils dit que les vainqueurs domineront avec lui. Il s'agit de régner avec Christ, de partager, comme on l'a chanté, sa gloire. Mais cela semble à l'évidence une promesse, je disais tout à l'heure, pour le futur. Comment pourrions-nous justement proclamer que nous avons autorité sur les nations aujourd'hui? Comment? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 10, nous avons Jésus qui parle justement dans cette prière qu'il nous a enseignée. Il nous enseigne à prier en disant « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, c'est un acte révolutionnaire en quelque sorte. C'est un grand changement. Il s'agit de prier pour l'établissement d'un royaume et d'une volonté dans laquelle, royaume et volonté, Christ a la suprématie en tant que tout et en tous. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce royaume, bien-aimé, il n'y a pas de place pour un quelconque gouvernement, pour un quelconque dirigeant ou un quelconque, roi terrestre. Ensuite, dans cette volonté, il n'y a pas de place, voyez, pour le moindre agenda, le moindre calendrier humain. Non, il s'agit de voir ce qui se fait au ciel et de vivre en fonction de cela ici sur terre. De ce fait, la verge de fer symbolise justement l'immense pouvoir qui accompagne une vie de victoire. Alors que faisons-nous en attendant? Les vainqueurs ne se contentent pas d'attendre passivement le retour de Christ. Il va venir, oui, bientôt il va venir. Non, mais les vainqueurs ne se contentent pas d'attendre passivement ce retour-là, il prie. Les vainqueurs prient, les vainqueurs veillent dans la prière afin que son royaume soit établi et pour que sa volonté soit faite. De cette façon, les vainqueurs exercent un pouvoir, ils exercent une autorité sur les nations en préparant le chemin du Seigneur. D'après Luc, chapitre 3, verset 5, qui dit « Toute vallée sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. » De ce fait, bien aimé, la prière est destructrice au sens naturel du terme, bien évidemment. Mais elle est aussi constructive au sens spirituel du terme. Mais parce que, alors que les nations diminuent en autorité, en pouvoir, alors que nous prions, Christ s'élève, Christ grandit. Et le Saint-Esprit, comme on a chanté, couvre les nations. Couvre les nations. L'Éternel a dit à son serviteur, le prophète Jérémie, « Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et ensuite pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie chapitre 1, verset 10, nous avons aussi reçu cette même autorité. Nous ne servons pas, bien aimé, dans le cadre d'une compétence humaine. Non, il ne s'agit pas de voir les choses humainement parlant, mais nous servons en vertu d'une compétence spirituelle. Les choses se passent au niveau de l'esprit. Prions pour que le règne et la volonté de Dieu descendent. Une telle prière, je disais, est révolutionnaire, elle est universelle, mais elle est aussi très lourde de sens et de conséquences. Elle va au-delà de la terre. Et donc, elle met la terre en mouvement, cette prière. En plus de l'autorité sur les nations, il nous est donné l'étoile du matin. L'étoile du matin. Christ est l'étoile du matin, d'après Apocalypse 22, verset 16. Et d'ailleurs, d'après 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, cette étoile du matin se lève, où c'est? Dans nos cœurs. C'est une étoile qui se lève dans nos cœurs afin que la lumière dont nous venons de chanter, la lumière que nous recevons de cette étoile, donc de Christ, brille en nous, de sorte que les gens justement voient la vie de Christ en nous. À l'église de Sardes, Christ dit à celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Voilà une autre évidence de notre état de vainqueur, c'est que nous sommes habillés de blanc. Oui. Alors que chacun a une uniforme de telle ou telle couleur, mais Dieu nous voit habillés en blanc. Nous sommes habillés de blanc, oui. À nouveau, cela aura un accomplissement littéral dans le futur, mais il nous faut voir de quelle façon cela s'applique à nous actuellement, en tant que vainqueur. Comment quelqu'un est-il revêtu d'un vêtement blanc? Les Écritures disent que le fin lin éclatant et blanc représente la justice des saints, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à part à travers l'œuvre de Christ, la justice des saints, ceux qui se sont préparés justement pour le repas des noces de l'agneau, Apocalypse 19, versets 7 à 8. Nous savons donc que le blanc représente la justice. Comment les saints deviennent-ils justes? Et qu'est-ce que la justice? Alors, est-ce que c'est la somme totale des bonnes œuvres que je réalise? Est-ce que c'est accomplir beaucoup de bonnes actions? Est-ce que c'est le fait d'assister, comme ce matin, au culte, de lire la Bible, de prier, de témoigner? Est-ce que c'est tout ça? Selon les critères humains, toutes ces choses pourraient représenter la justice. Mais en tout cas, pas selon la sagesse de Dieu. Notre propre justice, nous dit la Bible, est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 6. Ainsi, dans le royaume de Dieu, il n'existe pas une chose appelée justice qu'il nous faudrait atteindre nous-mêmes. Car la justice, en réalité, est une personne. La justice est une personne selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, qui dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait notre sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est Christ qui a été fait sagesse pour nous. Il a été fait justice, sanctification, rédemption. Il n'est pas question de la sagesse, la justice, la sanctification, la rédemption qu'il nous faut atteindre par nos propres efforts. Il ne s'agit pas non plus des dons de Dieu accordés à celui qui est fidèle. Non, au lieu de cela, il est dit que nous sommes, nous, placés en Christ, unis à lui. Et Dieu a fait du Seigneur Jésus notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Ainsi, si le blanc représente la justice, frères et sœurs, nous avons la réponse à nos questions concernant le moyen d'être habillé en blanc. L'apôtre Paul dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains chapitre 13, au verset 14. Comment vivons-nous de manière juste? Non pas en faisant les choses par nos propres forces, par nos propres efforts, mais en s'appuyant sur Christ, en me revêtant du Seigneur Jésus, lui qui est ma justice. Mais parce qu'il est ma justice, je me revêts simplement de lui. Quand j'ai revêtu le Seigneur Jésus, bien aimé, il n'y a plus de place pour la chair. Notre penchant à apprécier le péché va diminuer jusqu'à ce que nous vivions tout naturellement dans une dimension spirituelle comme des gens saints, véritablement mis à part. C'est la seule façon de vaincre le péché. C'est pourquoi les vainqueurs sont habillés de blanc et ils ont accès au lieu céleste. C'est pourquoi leurs noms sont inscrits dans le livre de vie et ils peuvent se tenir devant le Père et devant ses anges, en étant reconnus comme des fils et des filles du Dieu Très-Haut. À l'église de Philadelphie, le Seigneur Jésus dit ceci: « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, c'est-à-dire un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après, pardon, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Frères et sœurs, les vainqueurs sont des colonnes. Les vainqueurs sont des piliers dans le temple de Dieu. Vous voyez, comme cette femme qui s'appelle Anne. Ils ne quittent pas le temple, les vainqueurs, mais ils servent le Seigneur nuit et jour. Luc chapitre 2, verset 27. Voilà ce qui fait de quelqu'un un vainqueur. La question n'est pas dans le nombre de fois où nous fréquentons un endroit. Non. Mais la question est si oui ou non nous y habitons. Les piliers font partie intégrante de ce qu'on appelle la structure. Vous voyez Joachim et Boaz au sujet du temple de Salomon. Les piliers, oui. Ils font partie intégrante de la structure. Et s'ils sont ôtés, s'ils étaient ôtés brusquement, le bâtiment s'écroulerait. Oui, si on les enlève, le bâtiment s'écroule. Tant de gens servent le Seigneur selon ce que moi j'appelle leur calendrier. Quand le calendrier dit qu'on est dimanche matin, ou mercredi soir, ou Pâques, ou Noël, alors ils tournent en quelque sorte le bouton et deviennent spirituels. Ils vont assister à un culte, ils vont chanter quelques chants dans l'espoir, mais vraiment de venir dans la présence du Seigneur. Dès que c'est fini, ils tournent à nouveau le bouton dans l'autre sens et reprennent le cours normal de leur vie. Voilà. Mais cette façon de faire se répète chaque année, voilà, année après année dans leur vie. La pensée la plus élevée de Dieu pour nous enfants de Dieu, frères et sœurs, n'est pas que nous entrions et que nous sortions, mais que nous soyons des piliers, des colonnes dans son église. Un pilier ne vient pas le dimanche matin et s'en va le dimanche à midi. Non. Un pilier est toujours dans le temple, toujours dans le temple. Et bien entendu, nous ne parlons pas du temple en tant que bâtiment réel. Non, les vainqueurs sont des piliers dans le temple de Dieu. Et c'est une question, je disais, spirituelle. Quelle que soit la façon dont vous l'interpréteriez, une chose est sûre, ils ont appris à servir le Seigneur continuellement, les piliers, quelles que soient les circonstances ou les lieux. Le Seigneur recherche, dit-il, une adoration en esprit et en vérité. Et les vainqueurs, justement, lui donnent ce qu'ils désirent. Ils adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas de jour saint, il n'y a pas d'heure sacrée, il n'y a pas de dévotion spéciale. Ils n'ont pas à entrer dans la présence du Seigneur, car ils vivent. Ils vivent dans la présence du Seigneur constamment. Ils vivent. Il ne s'agit pas... Pardon, il s'agit plutôt de celui qui vint encore et encore, celui qui a la victoire et encore et encore. Et c'est une victoire, une vie victorieuse, une victoire de tous les temps. Ils appartiennent au Seigneur. Ils appartiennent au Seigneur. On a parlé qu'ils portent le nom de Dieu, le nom de la cité de Dieu. Et c'est ça qui caractérise leur appartenance à Dieu. Et c'est en contraste avec ceux qui portent la marque de la bête, justement. Porter le nom signifie avoir le témoignage. Et c'est un signe d'appartenance. Il ne s'agit pas de prononcer quantité de mots, mais de vivre comme un pilier dans le temple de Dieu et de ne plus en sortir. C'est une question de porter sa croix tous les jours. À l'église de Laodicée, le Seigneur dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3, verset 21. Frères et sœurs, rappelez-vous que celui qui a écrit cette vision, l'apôtre Jean, c'était un jour approché de Jésus avec son frère, Jacques, appuyé par leur mère, une certaine Salomé. Et lui avait demandé s'il pourrait être assis sur des trônes à côté du Seigneur dans son royaume, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le Seigneur Jésus n'a pas refusé leur requête, mais il leur a dit que eux, en tout cas, ne comprenaient pas ce qu'ils demandaient. Il leur a demandé s'ils étaient prêts à boire la coupe que lui, justement, le Seigneur, devrait boire et être baptisé du baptême dont il devrait être baptisé. Marc chapitre 10. Nous voyons dans l'Apocalypse que la pensée de Dieu, au fond, n'est pas de placer un ou deux saints particuliers à sa droite ou à sa gauche. Vous voyez ? Sinon, ces places seraient limitées à deux. Et comme les premiers disciples, nous serions tous en compétition les uns avec les autres pour obtenir une place spéciale. Au lieu de cela, le Seigneur dit que ceux qui vaincront seront assis avec lui sur son trône. Donc, il y a assez de place. Il y a assez de place sur le trône pour le Père, pour Jésus et pour tous les saints qui vaincront. Il y a assez de place. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Cela n'arrivera pas après la mort, mais cela s'est déjà produit pour nous. Comment sommes-nous arrivés à cette plus haute place dans l'univers, bien au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dirigeants et de tout le temps? Éphésiens chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit que tout a commencé avec « J'ai été crucifié avec Christ ». Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ ». Alors, parce que j'ai été crucifié avec Christ, alors je suis mort avec Christ. Et si je suis mort avec Christ, alors j'ai été enseveli avec Christ. Et si j'ai été enseveli avec Christ, alors j'ai été aussi ressuscité avec Christ. Et si j'ai été ressuscité avec Christ, alors je suis aussi monté au ciel avec Christ. Et si je suis monté au ciel avec Christ, alors je suis assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Vous voyez que cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de lui. C'est lui qui a accompli toute l'œuvre. Notre union avec Christ est la clé de notre victoire au quotidien. Je disais la fois passée, victoire sur le moi, victoire sur Satan, victoire sur le péché, victoire sur les circonstances adverses. Notre union avec Christ, c'est ça que nous devons cultiver chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prendre notre croix tous les jours et de le suivre. Le trône, frères et sœurs, est seulement pour ceux qui peuvent boire de sa coupe et être baptisés de son baptême. Ce qui veut dire être crucifié, mort, ressuscité. Les hommes, vous voyez, voient seulement la croix et les douleurs. que cela suscite et disent que c'est terrible cette croix. Mais le Seigneur voit que la croix conduit à la mort et que la mort conduit à la résurrection et que la résurrection conduit à l'ascension. Ça ne s'arrête pas à la croix. Et l'ascension justement conduit à être assis avec lui sur des trônes. Il nous est impossible de prendre la croix et de ne pas être crucifié, pardon, de ne pas être ressuscité, oui, crucifié aussi, et ressuscité. Nous ne pouvons pas vivre l'ascension tant que nous ne sommes pas d'abord descendus. C'est ça, embraser la croix et aimer les mains qui m'ont cloué, aimer mes adversaires sans retenir ni en vouloir à celui qui m'a mis là à la croix. C'est aussi remettre mon esprit au Seigneur et abandonner notre moi quand nous voyons la joie qui est devant nous. Bien-aimés, sûrement que le cep a été crucifié, qu'il est mort, enseveli, ressuscité, élevé et assis. Les sarments, Jean 15, aussi ont été crucifiés et sont morts, ressuscités, élevés et se sont assis. Tout le problème est, allons-nous demeurer unis au cep et partager sa victoire ou non? Est-ce que les circonstances viendront pour nous éloigner ou pour nous amener à nous affermir davantage, à demeurer davantage au cercle? Vaincre, frères et sœurs, est lié à demeurer. Demeurer. Le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Autrement dit, vivez en moi et je vivrai en vous. Jean 15, verset 4. S'asseoir avec Jésus sur son trône n'est possible que parce que nous sommes en lui et il est en nous. Selon qu'il est dit, celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 16. Voilà ce que je voudrais que nous comprenions en conclusion. Le plan de Dieu, frères et sœurs, ne s'accomplit pas d'un seul coup, mais se réalise étape par étape. Premièrement, dans la vie de chaque disciple, dans la vie de chacun d'entre nous. Oui. Deuxième étape, dans la vie de l'Église, comme étant la synthèse de tous les chrétiens, l'assemblée de Dieu. Et finalement, dans la création. C'est à l'Église que Dieu a confié la mission d'atteindre les nations. Mais l'Église, c'est la somme des chrétiens. La réconciliation du ciel et de la terre, de Dieu et de l'humanité, est préfigurée dans les vainqueurs. En eux, nous voyons le ciel descendre sur la terre jour après jour. C'est un peuple mis à part. L'Église, un peuple qui vit, qui travaille et marche sur la terre en gardant une communion céleste, en gardant les yeux fixés au ciel, une citoyenneté céleste, un appel céleste, un témoignage céleste, une vie céleste. En tant qu'ambassadeur de Christ, il représente quelque chose d'étranger à la terre. Oui, nous sommes des étrangers sur la terre. Mais ils manifestent quelque chose de céleste dans le pays dans lequel ils habitent. Ils maintiennent déjà un tabernacle pour le Seigneur en eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de temple, nous dit Apocalypse 21, verset 22. Nous sommes le temple de Dieu, chacun de nous est le temple de Dieu. Donc nous n'avons plus besoin de temple. Nous voyons déjà en eux la nouvelle Jérusalem, car la gloire de Dieu et celle de l'agneau est leur lumière. Apocalypse 21, verset 23. Ils voient déjà sa face et le servent continuellement comme les anges, nuit et jour. Bien-aimés, le cri des vainqueurs est celle-ci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce cri veut nous dire quoi? Ce cri veut dire que tout a déjà été accompli. Ce que nous nous devons reproduire sur terre, en fait, a déjà été accompli au ciel. Et donc, c'est à nous de voir avec les yeux de l'esprit, ensuite reproduire de la même manière que Dieu a dit à Moïse, regarde le tabernacle ici au ciel, va le reproduire sur la terre. Tout a déjà été accompli. Ce cri est l'essence même du pourquoi et du comment de la victoire. Tant que le ciel et la terre sont étrangers l'un à l'autre, la victoire et le royaume de Dieu ne sont pas pleinement établis. Dans l'Apocalypse, nous voyons la fin de toute chose qui est que Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés et parviennent justement à la connaissance de qui est Jésus-Christ. Le Christ doit remplir toute chose dans l'univers. Et la Bible dit, et tous me connaîtront. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus d'eux, de leur péché. Heureux et bénis sont ceux qui le connaissent dès maintenant. Et appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, mais comme si elles existaient déjà. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. À l'agneau immolé, je vous invite à chanter ce chant.